un nouveau chapitre d'histoire de l'Église, le protestantisme britannique au XIXe siècle. Le XIXe siècle voit un considérable rayonnement du protestantisme britannique dans le monde. On peut dire que c'est l'âge d'or, l'apogée du protestantisme anglais. Et ce protestantisme va amener une expansion d'évangile dans le monde entier, un élan missionnaire extrêmement important. Mais dans les pays anglo-saxons eux-mêmes, il va y avoir un approfondissement de la foi, un renouveau de la foi qui va être marqué par un certain nombre de réveils. Ces réveils avaient été préparés par ceux du 18e, notamment le réveil wesleyen. Et sur la lancée du réveil wesleyen, d'autres manifestations du même type vont avoir lieu. Alors, étudier le protestantisme britannique au XIXe siècle, c'est essentiellement étudier les mouvements de réveil. Le premier mouvement de réveil qu'il faut évoquer, c'est le mouvement qui va avoir à son origine Spurgeon. Spurgeon est né en 1834 et il mourra en 1892, à une époque où non seulement le protestantisme, mais on pourrait dire la société britannique aussi atteint son apogée. Il est tout à fait intéressant de constater que l'apogée de la foi coïncide avec l'apogée de l'Angleterre en tant que nation. C'est l'époque où l'Angleterre va avoir un empire qui s'étend sur l'ensemble du globe, et c'est ce qu'on appelle l'époque victorienne, du nom de la reine Victoria, qui va avoir un très long règne et qui va marquer toute cette époque, qu'on appelle pour cette raison l'époque victorienne. L'époque victorienne est marquée par deux grandes réalités, si vous le voulez. La première, c'est la première révolution industrielle. Et la révolution industrielle va essentiellement toucher l'Angleterre, avec deux effets. Le premier, c'est que il va y avoir un renforcement considérable de la puissance économique, donc automatiquement politique, de la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne va être la grande puissance du XIXe siècle, n'est-ce pas ? À cause de cette révolution industrielle précisément. Et puis, une deuxième conséquence négative, n'est-ce pas, c'est qu'elle va créer un prolétariat, un sous-prolétariat extrêmement défavorisé, misérable, qui aurait dû logiquement se tourner vers le marxisme. Et le marxisme aurait dû naître en Angleterre, aurait dû en tout cas se développer en Angleterre. C'était le souhait de Marx. Marx avait fait cette analyse que l'Angleterre était mûre pour être la terre d'expansion du marxisme. Et puis précisément, cette expansion du marxisme en Angleterre va être bloquée par les réveils, justement. Ce sont les réveils qui vont empêcher les ouvriers de se tourner vers Marx. Plutôt que de se tourner vers Marx, ils vont se tourner vers Jésus. Et notamment, il y aura les mouvements d'évangélisation populaire qui vont avoir une grande part dans cette action-là, notamment l'Armée du Salut. Bon, nous aurons aussi l'occasion de parler. Et puis, l'expansion, donc l'accroissement de la puissance britannique va avoir une autre conséquence, c'est l'essor du colonialisme. Le 19e siècle est le siècle du colonialisme d'une manière générale, mais plus spécialement et plus particulièrement pour l'Angleterre. L'Angleterre va se tailler donc au 19e siècle cet empire colonial mondial qui précisément va contribuer à son enrichissement, va contribuer à sa puissance et son rayonnement dans le monde entier. Et le colonialisme britannique, avec ses ombres et ses lumières, ses ombres, c'est évident, ces lumières, il faut aussi les mentionner, car on a aujourd'hui une vue négative du colonialisme, entièrement négative, je dirais. Il y a des aspects négatifs absolument indiscutables, mais il y a aussi des aspects positifs, et ça, justement, on les oublie aujourd'hui. Il est certain que le colonialisme a eu un effet bénéfique sur le développement d'un certain nombre de peuples colonisés. Et parmi les autres effets bénéfiques, il y a eu justement le fait que le colonialisme a ouvert la voie à la mission chrétienne. La mission qui avait piétiné pendant des siècles qui, au moment de la réforme, avait totalement été occulté par les réformateurs au nom justement de la fameuse doctrine de la prédestination, de la souveraineté de Dieu. Et souvenez-vous de la réponse du pasteur de William Carey, quand il avait fait part de son désir de partir en Inde, le pasteur lui avait répondu « Si Dieu a envie de convertir les Indiens, il pourra faire ça sans vous et sans moi. » Bon, donc il n'y avait absolument plus de vision missionnaire. Et donc c'est William Carey qui est le premier à redonner ce grand élan missionnaire à la fin du XVIIIe siècle. Et sur sa lancée, d'autres vont se lever et vont porter l'évangile dans le monde entier. Évidemment, cette vision missionnaire coïncide avec l'essor du colonialisme. Et le colonialisme va faciliter l'œuvre missionnaire. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours la favoriser. Nous avons vu, par exemple, que William Carey a connu de grosses difficultés en Inde avec justement la Compagnie des Indes, qui s'est opposée à son ministère, qui s'est opposée à son travail. Et d'autres missionnaires, dans le courant du XIXe siècle, feront la même expérience. Mais d'une manière générale, le fait que le missionnaire, par exemple, s'il va dans une colonie britannique, il a un passeport britannique, donc automatiquement, il est protégé par les autorités britanniques. Il peut bénéficier de l'infrastructure que l'Empire britannique est en train de créer dans ces pays-là, sur le plan de l'infrastructure routière, les facilités de déplacement, de poste, de santé, etc., etc. Et par conséquent, ça contribue évidemment à aider l'expansion de l'Évangile. Donc, ça, c'est l'Angleterre de Spurgeon. Maintenant, l'Angleterre victorienne est aussi marquée par ce qu'on associe constamment avec l'ère victorienne, ce qu'on appelle le puritanisme britannique, qui est un terme très impropre, parce que le puritanisme à cette époque-là avait disparu. Le puritanisme est un phénomène, est un réveil du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Du début du 18e, surtout du 17e. Et au 19e, le puritanisme en tant que tel n'est plus qu'un souvenir. Mais ce qu'on appelle puritanisme, quand on l'associe avec l'Angleterre victorienne, c'est essentiellement une morale stricte. Et cette morale stricte est de fait était l'apanage des puritains au 17e et finalement va être redécouverte par tous les réveils. La morale wesleyenne n'avait rien à envier à la morale puritaine, et justement c'est cette morale rigoureuse qui a donné naissance à l'expression méthodisme. Le méthodisme, c'est précisément cette méthode que l'on s'impose à soi-même, cette discipline de vie que l'on s'impose à soi-même pour précisément mener une vie conforme à l'Évangile, donc sur le plan moral essentiellement. Et les réveils qui vont marquer le 19e vont être aussi des réveils qui vont ramener dans une moralité. Alors la moralité, évidemment, concerne ceux qui sont touchés par le réveil, qui sont nombreux, mais qui sont quand même une minorité au sein de l'Angleterre. Il ne faudrait pas croire que l'ensemble de l'Angleterre est atteinte par les réveils. C'est une grosse minorité, mais c'est une minorité quand même. Seulement, cette minorité, elle est très influente. Et elle a une grosse influence, même chez ceux qui ne sont pas directement, qui n'entrent pas directement dans le mouvement, mais qui en subissent l'influence. Et des hommes comme Spurgeon, on va voir dans un instant, n'est-ce pas, sont des gens qui écrivent dans les journaux, qui sont interviewés, qui interviennent auprès des pouvoirs publics constamment. Certains sont même reçus par la reine. Certains premiers ministres sont eux-mêmes des chrétiens, comme par exemple Gladstone, n'est-ce pas ? Un autre qui est un juif, un maran d'Israéli, n'est-ce pas ? Sont aussi marqués par la morale judéo-chrétienne. Donc, si vous voulez, c'est tout un ensemble. Puis ces gens votent aussi, n'est-ce pas ? Alors, évidemment, les députés, les candidats députés font bien attention dans leur programme électoral de défendre une ligne morale, n'est-ce pas ? Donc, si vous voulez, il y a une vision particulière, n'est-ce pas, qui se développe en Angleterre à cette période-là, où la Bible va être omniprésente. Et jusque dans les années 50 de notre siècle, la Bible était faisait partie de la vie quotidienne en Angleterre d'une manière tout à fait normale. Bien entendu, depuis les années 50, ça a changé. Mais jusqu'aux années 50, c'était l'influence de ces réveils-là. Alors évidemment, les Français qui n'ont jamais rien compris au réveil, qui n'ont jamais rien compris à l'Angleterre des réveils, n'est-ce pas, ont assimilé l'Angleterre victorienne avec, comme le puritanisme, avec l'hypocrisie, la tartufferie, etc. Bon, qu'il y ait eu parfois de l'hypocrisie, qu'il y ait eu parfois de la tartufferie, ça n'est pas, il n'est pas question de le nier. Mais réduire tout, n'est-ce pas, toute l'Angleterre victorienne à la tartufferie, à l'hypocrisie, c'est évidemment un peu court. Il est certain que une personne comme la reine Victoria était une personne qui avait une foi certaine. Quand Gladstone se tenait au milieu de la Chambre des communes, une Bible à la main, brandissant la Bible et disant que ça, c'était le fondement de la puissance de l'Angleterre, il avait parfaitement raison. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons admettre, n'est-ce pas, que si l'Angleterre, malgré évidemment toutes les ombres, si l'Angleterre a connu un tel développement, une telle prospérité au XIXe siècle, c'est parce qu'il y a eu la bénédiction de Dieu sur ce pays. Ça ne veut pas dire que Dieu a approuvé tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est fait en Angleterre, mais la parole de Dieu est claire, la justice élève une nation, mais le péché, la honte des peuples. Et il est certain que l'Angleterre avait un extraordinaire privilège au siècle dernier d'avoir des dirigeants comme Disraeli, comme Gladstone, qui étaient des hommes de foi, qui étaient des hommes honnêtes, des hommes droits dans leur vie personnelle, éventuellement aussi dans leur administration politique, n'est-ce pas, et qui ont tenu une certaine ligne morale pour leur pays, et même si évidemment il faut nuancer parce que il y avait des forbans dans l'administration, il y avait des forbans parmi les colonialistes, il y avait toute une frange bien entendu inévitable, n'est-ce pas, mais tout de même on est obligé de reconnaître qu'il y a eu une bénédiction de Dieu. Donc Spurgeon a évolué dans cette Angleterre là. Il est né, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1834, et c'était aussi une époque où les sciences faisaient aussi de grands progrès, notamment les sciences médicales. Et Spurgeon était un victorien typique, il était un pur produit de l'Angleterre victorienne. L'Angleterre victorienne, ça se caractérisait aussi par tout un style, si vous voulez, une manière d'être, hein, un savoir-vivre, qui était d'ailleurs, qui puisait aussi son origine dans l'Évangile, n'est-ce pas, l'idéal du gentleman anglais. Spurgeon était absolument ça. Il a incarné à la perfection cet idéal d'une gentleman, n'est-ce pas. Très jeune, il était passionné par la lecture. C'était un garçon qui dévorait tout ce qui tombait à sa portée. Il était descendant d'ailleurs des Quakers. Vous savez, ces révivalistes qui avaient eu certaines piétés discutables par certains aspects, mais qui avaient une piété absolument certaine et une foi qui l'était. Et ses ancêtres avaient été persécutés pour leur foi, et Spurgeon a toujours été très fier de ses origines. Il disait « Je préfère descendre des Quakers qui ont souffert pour leur foi que d'avoir dans les veines le sang de tous les seigneurs du monde. » C'était pour lui un titre de gloire. Son grand-père, qui s'appelait Job Spurgeon et qui avait été pasteur, avait été persécuté par l'Église anglicane. Et une des prières qu'avait fait le grand-père de Spurgeon, c'était que ses descendants soient fidèles et marchent dans les voies de Dieu jusqu'à la dernière génération, jusqu'au retour du Seigneur. Ça, c'est intéressant comme prière, hein. Et en tout cas, en la personne de son petit-fils, Job Spurgeon a véritablement été exaucé, car Spurgeon a été un des plus grands hommes de Dieu de tous les temps. C'est en juin 1834 que naît donc le jeune Spurgeon dans le Sussex, et précisément les 5 premières années de sa vie, il va aller vivre chez ce grand-père-là. Ça va aussi considérablement le marquer. En effet, sa mère n'a que 19 ans lorsqu'il naît, et immédiatement après sa naissance, elle se trouve enceinte d'un autre enfant. Tant et si bien qu'elle est un peu débordée, et c'est pourquoi elle confie donc son fils aîné à son père, pour que, ou plus exactement, c'est le grand-père paternel, enfin son beau-père, n'est-ce pas, pour qu'il l'élève pendant qu'elle s'occuperait du deuxième enfant qui devait venir. Son grand-père était pasteur d'une église congrégationaliste à Strasbourg. Il était pasteur depuis 25 ans et il était très marqué justement par les réveils et par justement la morale stricte qui était héritée des puritains. Et c'est pourquoi très vite le jeune Spurgeon va être initié à la réflexion théologique. Et dès son plus jeune âge, il a 5 ans. Quand un jour, il interpelle un buveur, et il amène à ce buveur, en quelque sorte, à se convertir. Et il est tellement persuasif, à l'âge de 5 ans, que le buveur est interpellé et il va finir par se convertir à la suite de l'interpellation de cet enfant. À l'âge de 5 ans aussi, il retourne donc chez ses parents, à Colchester, où son père John est employé chez un marchand de charbon. Et son père, tout en étant marchand de charbon, fait aussi office de pasteur dans une église congrégationaliste qui se trouve à Tolsbury. Outre son autre frère, il y a deux filles dans la famille de John. Et Charles, donc le futur grand homme de Dieu, Charles Spurgeon, n'est-ce pas, le fils qui nous intéresse, se révèle tout de suite être un petit peu une espèce de chef de bande, n'est-ce pas. Notamment, il commande ses frères avec une grande autorité. C'est un garçon qui, très jeune, manifeste une très forte personnalité, un tempérament de chef, de meneur d'hommes, et ça se fait sentir extrêmement vite. Et c'est alors qu'un missionnaire, qui se nomme Creel, visite les églises et il va séjourner à Strasbourg chez le grand-père de Charles. Et à un moment où le jeune Charles se trouve à nouveau en vacances chez son grand-père. Et là, alors que en principe le réveil charismatique n'existe pas, enfin du moins n'est pas encore manifesté, il ne le sera qu'au siècle suivant, n'est-ce pas, Creel est saisi d'une espèce d'inspiration prophétique et il déclare que, ça se tourne vers Charles, qui est encore très jeune, et il déclare que cet enfant prêchera l'évangile à des foules immenses. Il sera un grand, grand homme de Dieu, un grand, grand prédicateur de l'évangile. Et plus tard, la prophétie de Creel s'accomplira à la lettre, si j'ose dire. À l'âge de 10 ans, il change d'école et c'est un excellent élève. Il est toujours premier, il rafle toutes les premières places à l'école. Et à 10 ans, donc, il va entrer pendant 4 ans, jusqu'à l'âge de 14 ans, au collège. À 10 ans, il a déjà une connaissance remarquable de la doctrine biblique, de la Bible d'une manière générale. Et en décembre 1849, une maladie contagieuse décime le collège dans lequel il est élève. Et pour cette raison, les élèves sont renvoyés chez eux et les cours sont interrompus. Logiquement, Charles n'aurait pas dû rentrer chez lui, mais là, il rentre chez lui pour les fêtes de Noël parce que le collège est fermé à cause de cette épidémie qui s'est répandue. À cette époque-là, Charles Spurgeon, il a 14 ans, Il a certes une grande connaissance de la Bible, mais il n'a pas l'assurance de son salut. Sa connaissance, même s'il a déjà amené ce buveur à la conversion, sa connaissance de l'Évangile reste théorique, n'est-ce pas ? Et il est loin d'avoir fait l'expérience décisive avec Dieu. Dans son autobiographie, comment il explique ce qu'était sa situation en ce temps-là. « Au temps où je cherchais le salut, je résolus d'aller à tous les lieux de culte de notre ville afin de ne pas perdre une seule occasion d'entendre la bonne parole attendue. J'exécutais mon projet, mais pendant longtemps sans aucun résultat. Les braves pasteurs prêchaient sur les vérités adaptées aux membres spirituels de leur congrégation, Mais ce que je désirais savoir, c'était comment mes péchés pouvaient être pardonnés, et cela il ne me le disait jamais. Je voulais entendre comment un pauvre pécheur convaincu de péché pouvait trouver la paix avec Dieu. Mais j'entendais un sermon sur « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu », qui m'accablait encore davantage. Je me rendais au culte un autre jour pour entendre un autre sermon sur les gloires des justifiés. Mais rien pour moi, misérable que j'étais. J'étais comme un chien sous la table qui n'avait même pas la permission de toucher à la nourriture des enfants. J'estime depuis lors que je ne dois jamais prononcer un sermon sans parler aux inconvertis. Et je crois fermement qu'un pasteur qui peut prêcher sans s'adresser aussi aux inconvertis ne sait pas prêcher. Donc voilà, si vous voulez, la situation dans laquelle se trouvait le jeune Spurgeon. Comme il le dit ici, donc il ne manquait aucune occasion de se rendre dans des églises diverses pour essayer de trouver une réponse à son angoisse, à son désir justement de connaître le chemin du salut. Et il se trouvait donc dans cette année 1849 chez ses parents, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'époque de Noël, c'était le jour de Noël, et il avait projeté de se rendre dans une certaine église. Et puis, brusquement, ce jour de Noël, une terrible tempête de neige s'est abattue sur toute la région, tant et si bien que tous les chemins étaient bloqués, il n'était pas question pour lui de se rendre dans l'église sur laquelle il avait jeté son dévolu. Finalement, il décide de se rendre dans l'église la plus proche de son domicile, qui est une petite église méthodiste. Et puis là aussi, la tempête de neige est telle que le pasteur n'a pas pu venir. Et finalement, c'est un ancien qui va prêcher. C'est un homme tout simple qui va prêcher une prédication toute simple. Et c'est extraordinaire de voir que l'homme qui sera un des plus grands prédicateurs de tous les temps va se convertir en entendant la parole de Dieu prêchée certainement sans aucune éloquence par un homme tout simple qui a pris tout simplement comme thème de prédication ce jour-là ce texte de la parole de Dieu. « Regardez à moi et vous serez sauvés ». Et c'est exactement ce que Spurgeon souhaite. Il boit les paroles, littéralement les paroles de cet homme qui enfin répondent à sa quête et à son attente. Voilà comment il raconte justement sa conversion. Le prédicateur ne put venir ce matin-là, bloqué par la neige, je suppose. Finalement, un homme d'une grande maigreur, un cordonnier ou un tailleur ou quelque chose de cette sorte, monta en chaire pour prêcher. Il faut bien sûr que les prédicateurs soient instruits, mais cet homme, lui, était vraiment primaire. Il ne pouvait pas sortir de son texte pour la simple raison qu'il n'avait pratiquement rien d'autre à dire. Le texte disait « Regardez à moi, vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre ». Il ne prononçait même pas les mots correctement, mais cela n'avait pas d'importance. Il me semblait qu'il y avait dans ce texte une lueur d'espoir pour moi. Le prédicateur improvisé commence ainsi. C'est vraiment un texte tout simple. Il dit « Regardez ». C'est pas trop compliqué de regarder. C'est pas comme de lever le pied ou le doigt, c'est juste regarder. C'est pas la peine d'avoir fait des études pour apprendre à regarder. Même si vous êtes le plus grand idiot du monde, vous pouvez regarder. Pas la peine de gagner des millions pour regarder. N'importe qui peut regarder, même un enfant. Et voilà que le texte dit « Regardez à moi ». Et, dit-il, avec l'accent de l'Essex, beaucoup d'entre vous, vous regardez à vous-même, mais ça sert à rien de regarder là. Vous trouverez jamais un réconfort en vous-même. Certains disent « Regardez à Dieu le Père ». Non, regardez à lui, Jésus-Christ, qui a dit « Regardez à moi ». Certains d'entre vous disent « Nous devons attendre que l'Esprit fasse son œuvre ». Vous occupez pas ça pour l'instant. Regardez le Christ. Et le texte dit « Regardez à moi ». Ce brave homme poursuivait alors de la manière suivante. « Regardez à moi. Voyez les grumeaux de sang. Regardez à moi. Je suis pendu au bois. Regardez à moi. Je suis mort enseveli. Regardez à moi. Je suis ressuscité. Regardez à moi. Je monte au ciel. Regardez à moi. Je suis assis à la droite du Père. Ô pauvre pécheur, regarde à moi. Regarde à moi. » Quand il eut réussi à déléguer son discours pendant environ 10 minutes, il arriva au bout de ses ressources. Apercevant alors dans l'insistance, et je dois dire qu'avec si peu de gens dans la salle, il devina aisément que j'étais étranger, il fixa son regard sur moi comme s'il connaissait la tragédie de mon cœur. Et il me dit « Jeune homme, tu as l'air malheureux ». C'était vrai. Mais je n'étais pas habitué jusque-là à ce qu'on me fasse depuis la chair des remarques sur mon apparence. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'un coup bien envoyé que je reçus en plein cœur. Et continua-t-il « Tu seras toujours malheureux ». Malheureux dans la vie et malheureux dans la mort si tu n'obéis pas à mon texte. Mais si tu le fais aujourd'hui, au moment même, tu seras sauvé. Puis levant les mains en l'air, il cria, comme seul un méthodiste primitif pouvait le faire, « Jeune homme, regarde à Jésus-Christ, regarde, 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 tu n'as rien d'autre à faire qu'à regarder et vivre. » Je vis tout de suite le chemin du salut. Je ne sais pas ce qu'il a dit ensuite, je n'y prêtais guère attention, tant j'étais possédé par cette unique pensée. Je m'étais attendu à devoir faire 36 choses, mais quand j'entendis le mot « regarde », comme il me parut charmant. Oh, je regardais plus presque jusqu'à en perdre les yeux. En cet endroit, et à cet instant précis, le nuage disparut, l'obscurité s'enfuit, et à ce moment-là, je vis le soleil. J'aurais pu me lever à l'instant même et chanter, avec le plus enthousiaste d'entre eux, le précieux sang de Christ et la simple foi qui porte les regards sur lui seul. Oh, si quelqu'un m'avait dit auparavant, « Confie-toi en Christ et tu seras sauvé », pourtant tout était sans doute sagement ordonné, et je peux dire maintenant, depuis que par la foi je vis le flot qui coule de tes blessures, je parle de l'amour rédempteur et j'en parlerai jusqu'à ce que je meure. C'est un cantique anglais. Cet heureux jour où je trouvais le Seigneur et appris à me cramponner à ses pieds adorés, jamais je ne l'oublierai. J'écoutais la parole de Dieu et ce texte précieux me conduisit à la croix de Christ. Je peux affirmer que je connus ce jour-là une joie absolument indescriptible. J'aurais pu sauter, j'aurais pu danser. Aucune extériorisation, même fanatique, n'aurait pu dépasser la joie à ce moment-là. Depuis, mon expérience chrétienne s'étale sur de nombreuses années, mais pas un seul jour ne m'a donné la plénitude de joie, le délice étincelant de ce premier jour. Voilà. Alors, voyez-vous, cet homme qui donc se convertit dans ces conditions-là et qui va effectivement mener maintenant une vie tout à fait nouvelle. Il fait une alliance avec Dieu dans laquelle il prend un certain nombre de résolutions et d'engagements une fois qu'il est rentré chez lui et il la signe. Et puis, immédiatement, il dit au Seigneur, dans les termes de cette alliance, qu'il veut le servir. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour le servir? Il se met immédiatement à l'œuvre, il prend des traités et il commence à les distribuer autour de lui. Et c'est alors qu'il va connaître des attaques diaboliques, des doutes qui viennent dans son cœur, doutes sur la réalité de l'expérience qu'il a faite ce fameux dimanche où il a entendu cette prédication toute simple. Mauvaises pensées qui viennent dans sa vie, dans son cœur, blasphème. Des mots blasphématoires qui montent en lui. Et cette lutte qui va durer quelque temps, qui est une lutte évidemment un peu normale dans des conditions comme celle-là, va l'amener à refuser de cautionner un certain nombre de doctrines qui courent en ce temps-là, justement en Angleterre, et notamment qu'on appelle la doctrine de la vie victorieuse, qui reprend un petit peu, si vous voulez, la doctrine méthodiste, mais qui la pousse à l'extrême. Et qui considère que lorsqu'on a fait un certain nombre d'expériences avec Dieu, on ne peut plus être tenté, on ne peut plus donc pécher automatiquement, on n'a plus de lutte et on n'a plus de combat, donc c'est la vie victorieuse. Spurgeon, dès les premiers pas qu'il fait dans la vie chrétienne, sait que ce n'est pas vrai. Il réalise immédiatement que la vie chrétienne, c'est une vie de lutte, c'est une vie de combat. C'est une vie où on peut être tenté, et on peut avoir de sérieux problèmes dans ce domaine-là. Il y a un autre point aussi sur lequel Spurgeon va tout de suite prendre position, c'est la question du baptême. Spurgeon, qui connaît très bien la Bible depuis déjà un certain nombre d'années, avons vu, est immédiatement convaincu que le seul baptême valable, c'est le baptême des adultes. Et de ce fait, il va avoir de grandes difficultés à se faire accepter par l'Église, qui est celle de sa famille, donc l'Église dont son grand-père est pasteur, et puis l'Église dans laquelle son père est prédicateur, n'est-ce pas, qui est l'Église congrégationaliste, parce que l'Église congrégationaliste est une Église qui baptise les enfants. Et Spurgeon refuse de cautionner le baptême des enfants. Immédiatement, donc, il y a tension. De ce fait, Spurgeon entre en contact avec un pasteur baptiste qui se trouve être M. Cantlow et avec lequel il discute à fond cette question du baptême et auquel il demande de le baptiser. Spurgeon est encore mineur et bien entendu, il fait part à son père de sa décision. Le père n'est pas très enchanté, bien sûr, parce que lui, il est plutôt pour le baptême des enfants, son grand-père aussi. Il y a des longues discussions entre le père et le fils, entre le petit-fils et le grand-père. Et finalement, le père cède et accepte que son fils se fasse baptiser. C'est le 3 mai 1850 qu'il est baptisé. C'est le jour anniversaire de sa mère. Il a 16 ans, lui, à cette époque-là, Charles. Et il est baptisé dans une rivière. Immédiatement, il prend la Sainte-Seine. C'est la première fois qu'il prend la Sainte-Seine. Le samedi suivant, il se met immédiatement à l'œuvre et dans sa seule journée du samedi, il fait 70 visites. Et il va tout de suite se manifester comme un garçon d'une activité dite débordante pour l'œuvre du Seigneur. Il demande à faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu et on lui propose une place de moniteur d'école du dimanche. Immédiatement, il va faire merveille dans cette tâche. Et il va être tellement apprécié et avoir un tel succès dans son enseignement que il va provoquer la jalousie du pasteur du lieu. Il écrit dans son un journal intime dans lequel il évoque ses démêlés justement avec ce pasteur. Et ce pasteur qui essaye de le décourager, finalement il écrit ceci: « Si vous avez reçu du ciel un appel pour prêcher, rien ne pourra vous en empêcher. » Et quand vous aurez prêché, il vous tardera de prêcher à nouveau. À l'été 1850, il part pour une nouvelle école, cette fois-ci à Cambridge. Et le premier dimanche, qu'il est à Cambridge, qui est une ville assez snob, n'est-ce pas, grande université anglaise avec Oxford, il se rend à l'église baptiste du Louvre. Bon, c'est une église très bourgeoise. Il est inconnu, bien entendu. Bon, l'église est pleine de telle manière que ce garçon passe pratiquement inaperçu. Et là, il y a le pasteur, il y a de nombreux prédicateurs laïcs. Et puis, à un moment de partir, personne ne lui adresse la parole. Il fait comme s'il n'était pas là. Alors, il est un petit peu choqué. Il revient dimanche suivant, même chose, personne ne s'intéresse à lui. Alors il a repéré un ancien ou deux, là, puis dimanche suivant, c'est lui qui l'interpelle. Il dit « Bonjour, frère ». Alors l'ancien regarde comme ça, il dit « Mais je ne vous connais pas, jeune homme ». « Mais pourtant, nous sommes frères », lui dit répond Spurgeon. « Comment nous sommes frères ?» lui répond l'autre. « Ah oui, ou bien, on a pris la Sainte-Seine ensemble tout à l'heure. Alors, je vous considère comme un frère ?» Et vous ne me considérez pas comme un frère? Alors l'autre commençait à se sentir un peu penaud. Et puis, la glace était brisée, l'ancien l'a invité à manger chez lui, à venir prendre le thé, enfin je sais pas, chez lui. Et puis, il a réussi à faire son trou dans cette église, qui était tellement glacée, si vous voulez, que donc on s'intéressait à personne. Évidemment, ça l'avait considérablement choqué. Spurgeon, donc, va immédiatement être remarqué, parce qu'il se fait remarquer, effectivement, de la bonne manière. Et puis, il va commencer à prêcher. Il va commencer à prêcher en plein air, c'est quelque chose qui est devenu une institution en Angleterre depuis Wesley. Et puis, immédiatement, il a du succès. Il prêche l'évangile et les gens se convertissent. Et bientôt, dans cette église baptiste de Cambridge, il y a ce qu'on appelle une association des prédicateurs laïcs. Et on lui demande de faire partie de cette association des prédicateurs laïcs qui ont un réseau de 14 villages à évangéliser, si j'ose dire, autour de Cambridge. Et c'est ainsi que Spurgeon va faire ses premières armes dans cette association des pasteurs laïcs, des prédicateurs laïcs de l'église baptiste de Cambridge. En 1851, il a tellement impressionné les gens de la ville, qu'on lui demande de devenir pasteur de l'église baptiste du village de Waterbow. Il n'a alors que 17 ans. C'est vraiment extraordinaire. Et à cette époque-là, il a un travail de pion, si vous voulez, à Cambridge, pour pouvoir financer ses études. Donc, il démissionne de son office de pion, il abandonne ses études et il se lance à fond donc, dans le ministère. Bon, l'église dans laquelle il est pasteur est une église de village, tout à fait petite, mais évidemment, quand on a 17 ans, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de bien extraordinaire. D'ailleurs, il est un peu méprisé, on se moque un peu de lui, on l'appelle le prédicateur enfant. Mais très vite, le mépris va se changer en admiration. En effet, en l'espace de quelques mois, dans son village, le village dans lequel il se trouve, l'alcoolisme et la débauche disparaissent. Les cafés ferment les uns après les autres En effet, Spurgeon est un garçon qui est sans crainte et qui a une audace extraordinaire. Il a une grande discipline personnelle, et de telle manière qu'il n'hésite pas à aller interpeller les buveurs, les gens de mauvaise vie, jusque dans leur lieu de débauche, et puis les mettre en face de leurs responsabilités. C'est alors que son père est à la fois flatté et en même temps que son fils est bien jeune pour être pasteur, et notamment qu'il manque un peu de formation. Et le père caresse alors l'idée de le faire entrer dans une école biblique baptiste. Bon, il parvient à persuader Charles, qui est un garçon soumis, qui ne voit pas ça dans un premier temps d'un très bon œil. Mais bon, son père, et finalement, bon, il décide au moins de se rendre, prendre contact avec le directeur du collège biblique. Et voilà, par un hasard dans lequel il verra la main de Dieu, il y a un quiproquo, il y a un contretemps, tant et si bien que le rendez-vous est manqué. Il se rend au collège au moment où le directeur n'y est plus, et finalement, il revient sans avoir rencontré le directeur. De ce fait, il n'ira pas à l'école biblique. Ce d'autant que sur le chemin du retour, il est un petit peu, comment dirais-je, décontenancé de ne pas avoir pu quand même rencontrer cet homme. C'est un enfant de Dieu, il voit la main de Dieu en toutes choses. Il dit, ben, Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis que je rencontre cet homme? Est-ce que tu veux me dire quelque chose par ce moyen-là? C'est alors que, pendant qu'il est sur le chemin du retour, il entend une voix dans son cœur qui lui dit ceci, « Ne recherche pas les grandes choses. » Alors, il comprend que c'est le Seigneur qui a fermé la porte et il décide de rester à Waterbois, tout simplement dans la petite église, en étant le prédicateur enfant dont certains se moquent un peu, n'est-ce pas? En fait, Spurgeon avait déjà une formation solide et il était certainement très en avance. S'il avait été à l'école biblique, il aurait été très en avance sur ce qu'on y enseignait. Sentait si bien que, effectivement, pour lui, ça aurait été une perte de temps que d'aller ici, dans cette école biblique. Il était bien plus utile là où il se trouvait. Depuis cette fameuse journée où il a entendu la voix de Dieu dire « Ne recherche pas de grandes choses », Spurgeon cesse de chercher tout honneur pour lui-même. À Cambridge, il a rencontré un homme qui se nomme Gold et qui a été très impressionné par sa prédication. Cet homme est originaire de Londres et il appartient à une église importante à Londres, l'église baptiste, et il parvient à persuader le pasteur et les anciens de l'église baptiste à laquelle il appartient d'inviter Spurgeon pour prêcher un dimanche. Et c'est ainsi que le 18 décembre 1853, Spurgeon quitte sa petite église pour aller prêcher donc dans un des plus grands temples baptistes de Londres et de Grande-Bretagne tout entière, qui comprend 1200 places. Mais quand il arrive là-bas, ce fameux dimanche, il ne trouve que 200 à 300 personnes dans cet immense amphithéâtre. Et il va prêcher sur son texte, ce sera Jacques 1, verset 17, et sa prédication soulève parmi les assistants un grand enthousiasme. Tant et si bien qu'il prêche l'après-midi, la réunion d'après-midi, comme c'est la coutume chez les baptistes, et les quelques-uns qui étaient le matin au culte ont parlé de ce jeune prédicateur si talentueux, tant et si bien que le soir, l'église est à peu près pleine, et on lui demande de rester le lendemain matin pour prêcher encore. Et finalement, il va revenir encore 3 dimanches prêcher sur invitation pendant le mois de janvier 1854. Et c'est alors que, à la fin de son 3e dimanche de prédication, les anciens de l'église se rassemblent et lui demandent de venir. Et on lui propose de devenir pasteur de cette église. D'abord à l'essai, on lui demande un essai pour 3 mois. Et c'est ainsi que le 1er février 1854, Spurgeon arrive à Londres pour ce temps de probation qui doit en principe durer 3 mois. En fait, il va rester là 40 ans. l'assistance s'accroît immédiatement dès que Spurgeon arrive dans cette église, et au bout d'un mois, le temple est absolument bondé. Spurgeon, qui est un homme auquel le succès ne monte pas à la tête, parce que c'est un homme très humble, sa fameuse expérience « ne cherche pas de grandes choses » sera en quelque sorte sa devise, si j'ose dire, pendant tout le reste de sa vie. Et ses paroissiens le portent au nu, n'est-ce pas ? Mais lui reste très simple, très humble. Et il va refuser, par exemple, deux choses, d'être officiellement ordonné, et puis qu'on lui donne le titre qu'on donne en Angleterre à tous les pasteurs révérends. Et tout simplement, le frère Spurgeon, il ne veut pas d'autre titre que celui-là. Mais déjà, on parle de lui comme un second Whitefield, vous savez, un des prédicateurs de l'entourage de Wesley, un homme d'une éloquence extraordinaire. Et le premier devoir de Spurgeon, quand il arrive dans cette église baptiste, d'abord, il prend conscience qu'il y a une grave lacune chez ces gens. C'est que dans la prière, il n'est pas du tout satisfait. Et Spurgeon va énormément insister sur la prière. Et il va apprendre à cette église à prier. C'est déjà la coutume dans les églises baptistes anglaises à cette période-là de ponctuer la prédication du pasteur par des alléluia et des amens retentissants, un petit peu à la pentecôtiste. Et souvent, vous savez, chez les pentecôtistes, ça devient mécanique, quoi. Et puis c'était pareil chez les baptistes à cette époque-là. C'est souvent au ton de la voix du pasteur, n'est-ce pas ? Je me souviens, par exemple, un jour dans une réunion à laquelle j'ai assisté, n'est-ce pas ? Et c'est alors que Satan intervint pour me tenter. Alléluia ! Répond. Enfin, vous voyez. Bon, alors, Spurgeon va faire la guerre à ça. Cette espèce de manière mécanique, n'est-ce pas, et mal à propos de dire Amen ou Alléluia, quelque chose qui ne sort pas du cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il interdit toute manifestation de ce type-là. Il dit, faites-le simplement quand ça vient du cœur, et pas simplement comme ça, mécaniquement, pour donner l'impression de la vie. Et alors, beaucoup plus tard, on demandera à Spurgeon quel est le secret de son succès. Et la réponse de Spurgeon sera très simple. Il dira ceci, « Mon Église prie pour moi ». Et ça a été effectivement le grand secret du ministère de Spurgeon, d'avoir appris à son Église à prier. Et tous ceux qui ont connu Spurgeon disent que ce qui les a le plus marqués dans le ministère de Spurgeon, outre ses prédications remarquables, n'est-ce pas ? Plus encore que ses prédications remarquables, c'était justement apprendre à prier. Avec Spurgeon, disait-il, on apprenait à prier. Et lui-même, n'est-ce pas, les prières de Spurgeon étaient des prières qui savaient prier. On voyait que c'était un homme qui savait prier. Et ses prières, dans les réunions de prière, bouleversaient ses auditeurs autant que ses prédications. Et souvent, les gens se convertissaient quand ils étaient en présence de Spurgeon en train de prier. Alors, il est évident qu'au bout de ces 3 mois, quand le temps probatoire s'achève, Spurgeon est confirmé dans sa charge. Et cette fois-ci, il devient pasteur officiel de l'Église. Très vite, le local devient trop petit. Et Spurgeon cherche à l'agrandir. En attendant, pendant la durée des travaux, il faut un autre local. Et Spurgeon va jeter son dévolu sur un local de 5000 places. En ancien, il y en avait déjà 1200, vous avez vu tout à l'heure. De 1200, on passe à 5000 places. Et les anciens de l'église sont un peu effrayés. Où est-ce qu'on va, c'est pas... Bon, ils font le pas un peu par la foi. Et puis, en l'espace de quelques mois, les 5000 places sont remplies et le local devient encore trop petit. Alors, il faut chercher un nouveau local, plus grand, qui est à nouveau trop petit. Et finalement, Spurgeon loue un hall de concert, le plus grand hall de concert de Londres, qui s'appelle Exeter Hall, n'est-ce pas, dans lequel jamais on avait imaginé qu'on pourrait un jour y prêcher l'Évangile. Et cet Exeter Hall va être rapidement, lui aussi, rempli par des foules qui viennent se presser pour entendre l'Évangile. C'est l'époque où, à Londres, éclate une épidémie de choléra. Spurgeon va se dévouer corps et âme aux malades. Il visite les malades, il les prend dans ses bras, il les réconforte, etc. Bien entendu, un tel succès n'est pas sans provoquer des oppositions. Nous avons vu que les choses religieuses à cette époque-là en Angleterre sont font partie de la vie quotidienne. Et les journaux d'information générale ont toujours une rubrique religieuse. Et à cette époque-là, Spurgeon, quand il a loué cet Exeter Hall, va être l'objet d'une violente campagne de calomnie dans la presse londonienne. On attaque ce jeune homme prétentieux qui a rabaissé l'évangile à un article de foire en arrivant à prêcher dans cet Exeter Hall, n'est-ce pas, pour se montrer comme si c'était une vedette, jouant les vedettes, etc., etc. Spurgeon ne réagira pas. Il laisse dire, n'est-ce pas, il remet sa cause au Seigneur et il n'intervient pas. C'est à cette époque-là qu'il va rencontrer celle qui deviendra son épouse, qui s'appelle Suzanne Thompson, qui va assister au premier culte qu'il va faire donc à Londres, dans cette église dont il est devenu pasteur. Et Suzanne Thompson dira beaucoup plus tard que la première fois qu'elle a vu ce jeune homme prêcher, elle l'a trouvé ridicule. Elle a même, à la sortie du culte, fait de l'ironie facile sur lui. Il était un peu débraillé, comme peut-être un jeune homme anglais célibataire à cette période-là, pas trop regardant de sa toilette, de sa tenue. Et par contre, Suzanne Thompson, qui était une jeune fille de bonne famille, très victorienne, très, très fashionable, n'est-ce pas, bien automatiquement, elle avait méprisé. Suzanne Thompson est une amie intime de la famille Gley, qui est une famille qui accueille très souvent Spurgeon. Spurgeon vient souvent manger, prendre le thé chez cette famille, et il rencontre donc à plusieurs reprises Suzanne Thompson. Il va s'éprendre d'elle. Janvier 1856, Charles et Suzanne se marient. Presque immédiatement, c'est aussi l'époque où les attaques nombreuses vont se développer contre Spurgeon. Il faut dire que presque toutes les églises à cette période-là ont un peu perdu le feu. Le réveil de Wesley est déjà loin, et c'est l'époque où on vit un peu sur le souvenir du réveil. Spurgeon est avant tout un docteur, et sa grande clarté d'exposition, son grand talent oratoire, que personne ne met jamais en doute, provoque des jalousies. Et la presse continue à l'attaquer, je disais tout à l'heure, y compris même la presse religieuse, ce qui est incongru. Des pasteurs jaloux, c'est souvent ainsi, n'est-ce pas? Quand quelqu'un, et là c'est souvent un homme de Dieu, béni de Dieu, il suscite la jalousie de pasteurs qui sont jaloux de son succès, qui sont jaloux de ce que le Seigneur lui a donné. Et Spurgeon est qualifié par ses collègues de charlatan ecclésiastique. Vous voyez, comme c'est gentil. Les attaques se multiplient dans les journaux. On l'accuse d'être un moralisateur, de pratiquer le lavage de cerveau. Tiens, 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 tiens. Voyez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et notamment, Spurgeon insiste sur la liberté de l'homme et on l'accuse aussi de ne pas croire à l'élection. Vous savez, c'est encore l'époque où des grandes bagarres entre calvinistes et arméniens. Bon, Spurgeon est plutôt arménien, donc automatiquement il est attaqué par les autres. Les hyper-calvinistes l'attaquent, n'est-ce pas? Et on va jusqu'à dire que Spurgeon n'a jamais été converti. Toujours la gentillesse. Et finalement, les attaques vont avoir un résultat positif, enfin négatif pour lui en tout cas, c'est qu'il est mis dehors d'Exeter Hall. Les propriétaires d'Exeter Hall lui prient de décamper. Qu'à cela ne tienne, Spurgeon va louer un endroit qui s'appelle Surrey Gardens, qui est encore plus grand, qui contient 10 000 places. Et il va remplir donc ce Surrey Gardens. Et le 19 octobre 1856 a lieu la première réunion dans cet immense lieu de rencontre. On n'a jamais parlé à tant de gens à la fois de l'Évangile. mis à part Whitefield, qui avait prêché à 20 000 personnes, mais il l'avait fait en plein air, tandis que Spurgeon le fait dans un lieu couvert. C'est à cette époque que Spurgeon a des jumeaux, du moins sa femme a des jumeaux, qui vont s'appeler Charles et Thomas. Charles comme lui et Thomas. C'est pas... Les réunions sont de plus en plus suivies et, par exemple, les réunions d'après-midi, les gens ne rentrent pas chez eux, ils restent sur place, ils pique-niquent sur place et du matin au soir, ils ne rentrent que le soir très tard, c'est pas pour assister à ces réunions. Et très vite, le Survey Gardens devient trop petit. À cette époque-là, Spurgeon n'a que 22 ans. Alors, là intervient justement un drame manifestement manipulé par l'adversaire. Alors qu'un culte bat son plein dans le hall absolument comble et comble au-delà, si vous voulez, des normes de sécurité permises. On est beaucoup moins strict à cette époque-là sur les consignes de sécurité dans les lieux publics, mais quand même, il y a un minimum. Et soudain, quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un mauvais plaisant ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui l'a cru, se met à crier au feu. Et ça provoque immédiatement la panique. Les gens se précipitent dehors, dans cet endroit où plus de 10 000 personnes se pressent, n'est-ce pas ? C'est une bousculade, certains sont piétinés à mort et on va relever cette mort. Alors c'est une tragédie terrible, n'est-ce pas ? Évidemment, les journaux attaquent et accusent Spurgeon d'être responsable de ces morts. Et le fait, c'est pour lui, ça va être un cas de conscience terrible. Il va mettre des semaines avant de se relever de ce drame, de cette tragédie. On l'accuse aussi, ensuite de rechercher de l'argent, alors que c'est un homme totalement désintéressé. Il va y rester donc prostré véritablement pendant 7 jours. Et puis, au bout d'une semaine, il reprend courage. Il va payer de sa propre main, de ses propres deniers, pour aider les victimes, tous ceux qui ont été piétinés, blessés dans cette affaire-là. Et en fait, le malin fait une œuvre qui le trompe, et ce drame terrible qui aurait pu briser la carrière de Spurgeon, briser sa renommée, va faire le contraire. N'est-ce pas ? Sa renommée va se répandre beaucoup plus loin encore, on parle de lui partout. Il est devenu maintenant un sujet dont on parle en bien ou en mal, mais on en parle. Et finalement, les gens veulent voir. Et beaucoup viennent par curiosité et puis sont convertis. Et c'est alors que Spurgeon réfléchit à tout ce drame et puis conclut que, effectivement, il a été imprudent quand même en accueillant tant de gens dans un lieu qui n'était pas fait pour en accueillir un aussi grand nombre. Alors il décide là une chose. Un acte de foi extraordinaire, de construire, pour le compte de l'Église dont il est pasteur, un lieu de culte plus grand. Jusque maintenant, ils avaient loué, hein, ils avaient loué des lieux de culte. Maintenant, il va en construire un. Voilà. Et bon, il faudra plusieurs années pour que ça se concrétise. Et puis finalement, quand ça se concrétisera, la nation anglaise tout entière reconnaîtra qu'un grand homme de Dieu s'est élevé en son sein. Quoi. C'est un homme qui va avoir une influence sur toute la nation. Pendant 3 ans, il va utiliser l'auditorium de Survey Garden, mais il va fractionner les réunions, c'est-à-dire qu'il aura un culte le matin et un culte le soir, et en même temps, il aura un autre culte qui sera tenu par quelques-uns de ses assistants dans un autre lieu. Mais il est évident que les gens viennent quand même là où il est, quoi. Il n'y a pas de problème. Et bon, c'est un homme qui a un talent de prédication extraordinaire. On l'a appelé le maître des prédicateurs. Il manie à la fois souvent l'humour qu'il utilise dans ses prédications, l'humour anglais, n'est-ce pas ? Mais s'il a l'humour, il dénonce ce qu'ils font les pitres et les clowns anglais en chair. Ça, il est absolument contre. Ah, il a raison. Moody le visitera à plusieurs reprises. Moody, qui est un homme beaucoup plus simple, et qui est très impressionné par Spurgeon, alors que Spurgeon aura pour lui beaucoup d'égards, bien que ce soit un homme effectivement beaucoup plus simple que lui. Et ce qui impressionne Moody le plus que les prédications de Spurgeon, parce que Moody vient se mettre à l'école de Spurgeon dans le domaine de la prédication, mais ce qui va l'impressionner le plus, c'est les prières de Spurgeon. C'est ça qui l'impressionne le plus. Et chaque mardi, Spurgeon reçoit des personnes qui sont en recherche. Et donc, il passe dans les rangs, et après la prédication, il parle avec les uns les autres, il est secondé par des conseillers, je crois, qui l'a formé pour ça, et qui aide les personnes ainsi anxieuses à trouver le chemin du salut. Pour la Sainte-Seine, il se pose devant, il a un problème, forcément. Et finalement, pour éviter que n'importe qui ne prenne part à la Sainte-Seine, des gens qui seraient des gens sans foi ni loi, ne peuvent participer à la Sainte-Seine que ceux qui ont une carte. Il remet une carte à ceux qui ont fait la preuve, qui sont des chrétiens engagés, fidèles, honnêtes, etc. Et finalement, ne peuvent communier que ceux qui présentent cette carte. Voilà. Par exemple, ceux qui sont absents 4 mois sans raison se voient retirer leur carte automatiquement. Et vous, il y a une discipline très stricte chez Spurgeon. Et c'est alors que, depuis l'église de Spurgeon, la bénédiction de Dieu commence à se répandre vers d'autres églises. Pas d'autres églises qui voient aussi le fruit du réveil qui naît, n'est-ce pas? Et en même temps, les journaux commencent à réviser leur position et à être favorables à Spurgeon. Et c'est ainsi que Spurgeon va construire le tabernacle métropolitain, qui est encore aujourd'hui une des grandes églises de Londres. J'ai eu l'occasion de participer à des cultes quand j'étais étudiant à l'école biblique à Londres, dans le tabernacle métropolitain. Il achète un terrain, un vaste terrain, en plein centre de Londres, où il va construire donc ce fameux tabernacle dont il avait rêvé. Il le dessine lui-même, du moins il en dessine la façade, qui a une espèce de style grec, parce que pour lui, le Nouveau Testament est écrit en grec, et bon, il a voulu redonner un petit peu ce style-là, quoi. Bon, ça, c'est son affaire. Et c'est alors que pour l'inauguration du tabernacle métropolitain, il va prêcher à 23 000 personnes en une seule réunion. C'est le plus grand rassemblement de l'histoire qui n'ait jamais eu lieu à cette période-là. Il faut dire que c'est l'époque où les Anglais font face à une révolte de leur colonie des Indes en particulier. Et beaucoup de gens ont été impressionnés par cette révolte, par les massacres qui l'ont suivi. Et par conséquent, beaucoup se tournent vers l'Évangile. C'est assez incompréhensible aujourd'hui qu'un revers politique, en quelque sorte, amène ainsi un regain d'intérêt pour l'Évangile dans une nation. Mais enfin, c'était comme ça, c'était à cette période-là en Angleterre. Et Spurgeon ne ménage pas ses critiques à la politique anglaise. Et, du haut de la chair, il fustige, n'est-ce pas, la politique colonialiste de l'Angleterre aux Indes. Et donc, automatiquement, les autorités de l'Angleterre sont obligées de tenir compte des critiques de Spurgeon. C'est l'époque où il va se rendre en Irlande pour la première fois, mais ce voyage ne lui réussit pas tellement. Il doit s'aliter pendant 3 mois, et c'est donc le 15 août 1859 qu'il va, après avoir effectué ce grand rassemblement dans un autre lieu, il va poser la première pierre de ce fameux tabernacle métropolitain. Et un soir, il invite un jeune homme qui s'est converti peu de temps avant, qui est un jeune esclave noir qui s'est enfui des États-Unis, qui s'est converti. Et Spurgeon est tellement touché par le récit des souffrances de ce garçon qu'il l'invite à parler, à donner son témoignage, à parler de ses souffrances. Et à la suite du témoignage de ce garçon, il prend position contre l'esclavage des Noirs, qui continue à sévir, comme on le sait, aux États-Unis. Pour construire son tabernacle, bien entendu, Spurgeon a besoin de fonds. Et il va se rendre au Pays de Galles, à Bristol, à Birmingham, en Écosse, à Paris et même à Genève pour récolter des fonds. La construction va durer 2 ans, et le premier culte au tabernacle métropolitain va avoir lieu le 31 mars 1861. À cette époque-là, Spurgeon a 26 ans. Pour pouvoir participer au culte du tabernacle métropolitain, il faut réserver ses places à l'avance. Et finalement, là c'est un petit peu discutable, mais enfin c'était la manière de faire de Spurgeon, les réservations sont payantes. Et c'est comme ça que vit l'Église, en quelque sorte. On ne récolte pas d'offrande, mais l'Église vit de la location des places. Spurgeon vit aussi de la vente de ses livres, de ses sermons, il n'accepte pour lui-même aucun salaire en dehors justement de ce que lui rapporte la vente de ses livres et de ses sermons. Il a mis en place dans le tabernacle un service anti-incendie très, très, très élaboré parce qu'il ne veut pas. Il a été très marqué par l'aventure qui s'est produite. Et puis, en dessous, il y a un vaste sous-sol dans lequel il a des locaux pour l'école du dimanche, des cuisines. Et pour l'inauguration, il va y avoir deux semaines de réunion. Deux semaines de réunion où la chose va être connue dans toute l'Angleterre et va profondément marquer justement l'Angleterre. La construction du théâtre du tabernacle métropolitain va marquer un tournant de la carrière de Spurgeon, qui jusqu'alors était plus ou moins contesté, dès lors va être une figure de proue, si vous voulez, de l'Angleterre tout entière, n'est-ce pas ? Même les inconvertis, même les incroyants reconnaissent que là il y a quelque chose de peu banal, quelque chose d'extraordinaire, et son ministère va durer encore de très très longues années. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Tu me prêtes une petite heure? Merci.